courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonnaissance.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Calade et du Val-de-Saône. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Fabrice Volpré de la coopérative de la transition Val-de-Saône-Mont-d'Or. Bonjour Fabrice.
Bonjour Elisabeth. Salut Ludovic.
Salut Fabrice.
Alors, au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de Fabrice, vous présenter son parcours et comment il en est venu à son engagement, non seulement citoyen à travers la coopérative, mais également personnel. Et puis, en deuxième partie d'émission, sur la partie savoir, eh bien, nous traiterons de présentation et histoire des mouvements citoyens de transition.
Et voilà, nous avons trouvé pertinent d'interviewer Fabrice et l'initiative de la coopérative de la transition, puisqu'il y a un gros, gros événement qui se prépare tout bientôt. On va en entendre parler tout à l'heure.
Un festival. Alors Fabrice, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et puis nous dire qui tu es, quel est ton parcours ?
Alors, il était une fois, bon, trêve de plaisanterie, c'est l'exercice, c'est jamais facile dans ce genre de choses. Alors, pour me présenter, donc, je suis un enfant un peu du Val-de-Saône, hein, je suis né là-bas. Toujours été en lien et en connexion avec l'un des beaux villages que j'habite dans le Mont-d'Or. Toujours été sensibilisé par l'écologie depuis ma tendre jeunesse. Et en fait, j'ai aussi beaucoup été aussi par le biais donc de mon grand-père, de ma grand-mère, du côté du Beaujolais. Voilà. Donc, pour toutes mes vacances scolaires, j'y passais aussi dans le Beaujolais. Donc, j'ai toujours un peu cette entité, on va dire citadine, parce que périurbaine, de là où j'habitais, et le côté beaucoup plus agricole, viticole, donc du côté du Beaujolais. Et c'est une chose en fait qui m'a marqué en fait après dans ma direction. Donc on m'a toujours dit Fabrice, pour toi il faut que tu t'orientes dans un métier commercial là-dessus, c'est là où tu vas t'éclater. Ok, donc moi je quelque part j'étais l'enfant sage, j'écoutais de ce qu'on me disait et voilà, je fais un peu mes études parce que c'était aussi assez sympa de ce que je faisais, le côté relation psychologie aussi de ces études étaient qui étaient pertinentes aussi pour moi, qui faisait sens.
C'était quoi comme études?
J'ai fait des études donc commerciales, BTS force de vente aussi, après donc une petite école de commerce autour de la grande distribution, voilà, par rapport à ça. Donc la relation, la négociation, qui était aussi une sorte de peu de jeu aussi pour moi, que je trouvais assez sympa là-dessus. Et après vie professionnelle, donc je me suis retrouvé à travailler pour une entreprise agroalimentaire. Et puis là, j'ai eu un gros clash en fait. Je me dis mais attends. Fabrice, est-ce que dans 10 ans, tu te vois faire ça ? Et donc, j'avais 22, 23 ans, hein, donc je me suis... j'étais vraiment là, et là, j'ai un gros coup de conscience, et je dis, mais attends, mais moi, l'argent, je m'en foutais, en fait, quelque part. J'ai dit, non, mais si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Donc, j'ai tout claqué, et en
t'as
fait...
T'as démissionné, donc.
J'ai démissionné, j'ai tout claqué, et j'ai dit... je voulais explorer aussi une autre facette que j'avais enfouie au fond de moi, on va dire, préadolescence, début de l'âge adulte, sur le côté qui faisait vraiment sens aussi pour moi, le côté que m'a inculqué aussi mon grand-père, plus proche de la nature, la relation vivant, la relation donc à la viticulture. J'avais fait beaucoup de travail aussi avec mon grand-père en étant dans le travail de la cave, la mise en bouteille là-dessus, et Donc ce terroir aussi, on est quand même en France, on a cette richesse aussi de ces terroirs et de mettre ça aussi en valeur. Donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de tout connaître de ce métier-là. Je dis voilà, c'est une partie de ma vie, l'autre côté, et j'ai envie de refaire une autre vie, ouvrir un nouveau chapitre. Et donc j'ai fait une formation, un brevet professionnel de responsabilité agricole en fait. D'exploitation agricole, exactement. Et donc, j'ai fait cette formation, on va dire, en deux ans. J'ai voulu la faire en deux ans. J'aurais pu la faire en un an, mais en étant aussi en alternance avec un domaine viticole, pour tout savoir. Parce que moi, je me disais, j'étais le citadin et que j'avais envie de... que je voulais vraiment me confronter aussi au travail, parce qu'il fallait... agir par l'action aussi, donc de connaître. Donc voilà, donc j'ai vécu pendant deux ans à travailler donc dans la vigne et aussi la viticulture, la vinification par rapport à ça. Et donc chemin faisant, j'ai fait après, je me suis passionné aussi donc dans ce milieu-là, et ça m'a ouvert aussi la voie du côté parler du terroir, ça faisait vraiment sens aussi pour moi. Et du coup, il y a un parallèle aussi avec ce côté un peu commercial qui est arrivé un peu naturellement. J'ai fait une formation de sommelier conseil à l'Université du Vin à Suze-Larousse, qui a été aussi une révélation aussi pour moi. Et donc là, j'ai trouvé aussi quelque chose qui faisait sens, de pouvoir parler du vivant, parler du terroir. On a des richesses, et parler de notre beau pays, du Beaujolais. Parce que voilà, le Beaujolais, il faut aussi être un bel ambassadeur aussi par rapport à ça, et de faire découvrir donc les différentes facettes du Beaujolais, les différents terroirs. On connaît le Beaujolais par rapport au Beaujolais nouveau, mais voilà, il y a d'autres, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et donc
aujourd'hui,
je travaille en fait dans un site touristique, un grand site touristique où je m'éclate de ce côté-là, on va dire, pour bien. Où j'accueille énormément de touristes qui viennent donc du monde entier, et aussi des locaux, des Lyonnais qui ont envie aussi de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au terroir. Et donc c'est le but aussi dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle. Et je parle de ça. On dit souvent, quand on boit un verre de vin, on doit voir aussi la trône du vigneron au fond. Et on a cette relation-là aussi où on doit... Je le dis souvent, le métier de viticulteur, c'est un métier l'un des plus difficile, parce qu'on doit être bon partout, on doit être bon dans la vigne, on doit être bon aussi parce qu'on est chef d'entreprise, on cultive des beaux raisins, mais il faut aussi bien savoir le vinifier, et puis après il faut savoir aussi le vendre. Donc donc moi je suis, on va dire, le bout un peu de la chaîne aussi. J'essaye de mettre en valeur tout ce travail, de ce dur travail de viticulteur dans le monde actuel. Voilà.
Donc tu es sommelier.
Sommelier, conseil, caviste, voilà.
Et donc tu reçois du public, tu leur fais découvrir du vin.
Exactement.
Et en même temps, tu leur parles de tout ce beau terroir et de tout ce beau travail qui permet d'aboutir à ce vin, en fait.
Exactement. Donc c'est aussi toute une histoire là-dessus, et expliquer. Il y a toute une démarche pédagogique aussi importante à faire.
Alors, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais j'avais envie de savoir quels étaient ces points de bascule, ceux ou ces points de bascule qui t'ont fait arriver à ton engagement aujourd'hui.
Alors donc, oui, j'en ai parlé. Donc, premier point de bascule au niveau professionnel. Et puis, une fois ma vie professionnelle, on va dire, bien installée aussi, ça me permettait aussi d'expliquer tout le contexte aussi du changement climatique. Hein, quand on a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on vendange beaucoup plus tôt, pourquoi on a des vins qui sont en plus de degrés d'alcool aussi. Donc, il y a toute une démarche aussi, et d'expliquer aussi. Et c'est vrai que des fois, des personnes, j'étais face aussi à des personnes des fois un peu climato-sceptiques, et quand on se dit, vous savez, quand on est sur le terrain et qu'il y a ça et ça ou ça qui se passe, donc voilà, donc ça c'est aussi important, et le métier change. Quand je suis face à des viticulteurs qui me disent, jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu vendanger un mois plus tard, donc on le voit concrètement ce changement. Donc là aussi, j'avais aussi en tête d'un engagement plus personnel, au niveau local, donc des J'ai vraiment recherché exactement l'engagement que je pouvais mettre, qui pourrait faire sens et qui pourrait être importante.
Et c'est arrivé en juin 2020.
Alors, c'est arrivé un peu avant. Juin 2020, c'est le lancement de la dernière association. En fait, j'avais un engagement en fait, associatif sur le territoire. Et ce cheminement a amené, en fait, en juin de 2020, où on a lancé avec mon collègue Nicolas Gauthier, on a cofondé donc la coopérative donc de la transition Val de Saône-Mandor, où en fait on s'est rendu compte où on était très investis, nous, dans des associations locales, des associations aussi communales en fait. Et moi j'avais toujours cette idée d'ouverture, d'aller voir ce qui se passait dans les autres villages, et on se rendait compte en fait quelque part que ça m'a fonctionné, les associations fonctionnaient un petit peu en silo, c'est-à-dire vraiment les associations de telle commune, telle autre commune là-dessus. Il y avait des belles synergies, il y avait des belles actions qui se faisaient dans notre Val-de-Saône. Et des fois, j'allais à telle ou telle soirée, cinéma, débat, mais il n'y avait pas vraiment de lien qui se faisait.
Donc c'est ce que vous avez mis en œuvre.
C'est l'idée. C'est pour ça qu'on a créé la coopérative. Coopération en fait, et de mettre en valeur toutes les belles initiatives, toutes les belles associations de notre territoire, que ça soit donc vraiment l'intercommunalité et qui part en fait de... Donc on n'a jamais voulu s'attacher à un territoire particulier, donc on va dire sur le nord de la métropole, dans la CTM du Val-de-Saône, mais ça va un petit peu.
Alors,
aussi
CTM,
sur...
CTM, Conférence Territoriale des Maires, c'est... Un regroupement de communes administratives quand il y a une métropole.
Voilà, mais on n'a pas voulu se cantonner à ces cantonnements, même sur les barrières départementales. Donc on va aussi du côté aussi un peu dans l'Ain.
Bien sûr. Voilà. Donc on sent bien dans ce que tu dis, la première bascule qui t'a reconnecté finalement à toute la richesse du parcours avec ton grand-père viticulteur, le rapport à la terre. Et en même temps, ce constat qu'il y avait des belles initiatives, mais qu'il n'y avait pas de lien. Et du coup, ça m'amène à te poser la question, quel est le rêve à l'origine de ton engagement ?
Alors le rêve, alors moi je suis un rêveur, mais il y a quelqu'un un jour qui m'a dit comme ça, et ça faisait résonance, ça me dit, vous êtes un utopiste pragmatique. Bon, et au début je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là, utopiste pragmatique, c'est quoi ce gros mot qu'il est en train de me dire ? Et en fait, je trouve que oui, ça me représente bien, parce que je suis un rêveur, je suis aussi, j'ai des idéaux, j'ai des choses... On a dans ce milieu-là, on a envie de participer concrètement à faire changer un peu le monde. Et je pense qu'on est tous un peu, comme disait Pierre Rabhi, des petits colibris, et qu'on faut croire à sa capacité aussi de se dire qu'on peut faire des petites choses, même si c'est des petites choses. On est face à des défis environnementaux, sociaux, économiques, sur beaucoup de choses, mais que nous, en tant que citoyens, on doit aussi s'engager. Et donc le rêve, c'était dans ce beau territoire quand même, on a un territoire qui est magnifique, un territoire où il peut y avoir vraiment de la résilience, que ce soit de la résilience alimentaire, que ce soit de la résilience énergétique, et là, de bâtir des ponts, de créer du lien, et du lien, donc que ce soit social, c'est aussi ça la coopérative aussi. C'est, on se rend compte en fait, au départ, quand on a lancé la coopérative, c'était aussi de mettre en avant les associations, mais très vite, on a eu des gens qui sont venus vers nous et dit, on a envie de s'engager, comment on peut s'engager, de telle ou telle manière, on présentera la coopérative peut-être un peu plus tard. Mais voilà, ça. Et donc du coup, c'est ça qui fait sens, c'est de mettre les gens en lien, en connexion, et de se dire qu'on peut agir, c'est là mon rêve.
Comme quoi, ton métier de commercial, c'était déjà de faire du lien. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et d'embarquer les gens. Oui, utopiste, pragmatique, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous savez la différence entre idéaliste et utopiste. L'idéaliste, c'est pas réalisable. Utopiste, c'est réalisable. Et quand c'est pragmatique, c'est en action. Et je crois que ça fera le lien aussi avec ce qu'on dira tout à l'heure.
Oui.
Mais du coup, la coopérative. Voilà, allons-y. C'est quoi cette coopérative de la transition Val de Saône-Mondor ? On a compris que c'était le but de faire du lien entre des dynamiques qui existent déjà. Mais vous avez quand même des actions fortes qui se produisent tous les ans et régulièrement pendant l'année sur différents territoires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et en même temps... rapidement, parce que je crois qu'on pourrait écrire un roman déjà de cette coopérative.
Alors oui, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émulations qui se passent donc au sein de la coopérative de la transition Val du Saône-Mondeur. En fait, on a très vite lancé différentes branches parce qu'en fait, chacun qui rejoignait la coopérative, bah, ça leur faisait plus sens d'être sur telle ou telle thématique. Donc on a une branche biodiversité. Donc on a fait pas mal d'actions aussi, notamment la fête des retours des hirondelles et des martinets, donc sur Neuville, où c'est un lieu où il a été référencé le plus grand nombre de martinets. Voilà, je passe aussi très vite avec des associations autour de cette branche biodiversité. La branche énergie, je parlais tout à l'heure de résilience aussi énergétique, donc ça aussi c'était important. Donc on a lancé un collectif d'énergie citoyen donc qui s'appelle Watson. Donc on a été incubateur donc de cette initiative. On est en lien avec Un de Toit Soleil, qui est notre SAS, qui regroupe aussi d'autres collectifs au sein de la métropole pour permettre en fait de poser des panneaux photovoltaïques sur des locaux communaux ou privés, donc de minimum de 200 mètres carrés. Donc ça aussi, on a des membres adhérents de la coopérative qui travaillent spécifiquement aussi sur cette action. On a une branche zéro déchet.
Juste sur Watson, tu dis 200 mètres carrés, c'est une dynamique collective, je crois.
Alors, c'est une dynamique collective, mais en fait, si tu veux, pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques dans les énergies citoyennes, il faut minimum que ça soit des toits de 200 mètres carrés. Voilà. Okay. Donc, on cherche, en fait, on a ce cahier des charges où des toits, par exemple, d'un privé, c'est pas efficient dans ce modèle. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est
important. Bon, j'aurais plein de questions, mais
je te laisse poursuivre. Oui, parce qu'autrement, on passera à l'émission pour parler des énergies citoyennes. Et ça serait peut-être l'occasion d'en parler un jour dans cette émission.
Voilà. on entend l'invitation.
Voilà. L'appel est lancé. Et donc oui, branche zéro déchet, c'était la première action dans la coopérative qui s'appelle Nettoyons notre Val de Saône, comme je vous disais tout à l'heure, que de dimension intercommunale. Donc là, sur la dernière édition, on était sur plus de 15 communes où on fait un nettoyage le matin sur 15 communes différentes avec 15 référents dans chacune des communes. Et après, on a un grand rassemblement où on fait un pique-nique partagé et avec une célébration donc ensemble. Voilà. Branche compostage, on a initié différents en lien avec différentes mairies, différents collectifs aussi, pour lancer des composteurs partagés. Branche économie régénérative, qui est chère aussi à mon corps, donc à mon cœur. c'est aussi le corps qui parle. Et donc, voilà, où il y a aussi beaucoup de projets dans cette branche. On a eu la chance de participer à des ateliers autour de l'économie régénérative qui a été lancée à l'automne 2023 et 2024, printemps.
Pour cette thématique, n'hésitez pas à réécouter ou à écouter notre émission précédente où on parle d'économie régénérative, de ce que ça, de tout le périmètre. Et on a aussi du coup interviewé une belle initiative autour de potagers verticaux. Voilà.
Merci, il faudra que je l'écoute alors, en podcast, oui. D'accord. Bon. Ok, encore quelque chose que je mettrai sur ma to-do list. Alors, donc, on branche aussi alimentation, branche aussi, donc, incubateur aussi, donc, d'une association qui a été aux arbres citoyens aussi, qui est une très très belle association qui a été lancée l'année dernière, que l'idée, c'était un constat aussi que des personnes avaient des fois trop de fruits chez eux et donc de pouvoir aller les ramasser et de pouvoir après partager et de donner à des banques alimentaires là-dessus. Donc, lien aussi avec des AMAP, des jardins partagés, en transverse aussi avec la branche biodiversité, sur la branche biodiversité et sur cette branche avec alimentation, on a notamment lancé une mare pour rendre un jardin partagé beaucoup plus résilient aussi au niveau en termes de permaculture. On a une branche sensibilisation où on a des fresqueurs, fresqueurs du climat, fresqueur de la biodiversité. On lance dans cette branche de sensibilisation en partenariat avec le cinéma Lorex à Neuville, ce qu'on appelle des formats ciné-déclic avec des films qui permettent après d'interagir et d'avoir un débat. Une branche mobilité aussi, autour des mobilités actives. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont sur notre territoire, avec notamment les voies lyonnaises qui commencent à arriver. Et aussi dans un projet qu'on est en train de peu lancé. C'est un atelier de vélo participatif qui va être lancé ce printemps, donc sur la gare d'Albigny. Voilà. Et une autre branche, grand événement, voilà, où on a donc une branche où on fait des grands événements, notamment. Donc,
ce festival. Comment
t'appelles ça ? Transition.
De la transition. Agir en Val-de-Saône-Mandor.
Voilà, c'est un très 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 grand festival. Le premier festival qu'on a effectué, donc c'était ça va faire 2 ans.
2 ans à Saint-Romain.
À Saint-Romain-Mandor. Donc Saint-Romain-Mandor.
C'était très chouette. Hein.
Oui, c'est vrai que toutes les personnes qui ont été nous font que de nous ont toujours fait des éloges un peu de ce moment œcuménique qu'on a voulu transmettre. C'était en plus, on n'avait pas eu de chance ce jour-là, il pleuvait, mais on a quand même réuni 1200 personnes, donc c'était au-delà de nos espérances. C'est là où on voyait vraiment qu'il y avait vraiment aussi des gens qui s'intéressaient à ce moment autour de la transition écologique. Et l'idée donc de ce festival de la transition, c'est de mettre en valeur toutes les belles initiatives autour de la transition écologique, que ce soit associatif, que ce soit aussi en termes d'engagement, parce qu'on l'a appelé aussi agir en Val-de-Saône-Mondor. Souvent, on a, voilà, je vous disais tout à l'heure, on a des personnes qui nous appellent et qui nous disent oui, vous êtes une chouette association, j'aimerais faire quelque chose, mais en fait, je ne sais pas faire grand-chose. Mais je dis non, on sait tous faire un petit quelque chose, donc il faut croire en sa capacité là-dessus. Et donc, chacun, après, un petit domaine de telle ou telle chose, peut participer, donc de montrer aussi pendant ce festival qu'on peut agir tous ensemble, l'engagement, et que je le dis tout le temps, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment l'ADN en fait de la coopérative.
Super, je me disais en t'écoutant qu'on a ça en commun, de montrer que c'est possible et comment c'est possible. Mmh. Et vu la diversité de ce que vous proposez en l'espace de 4 ans, c'est énorme en fait.
On essaie que ce soit assez exhaustif pour que tout le monde y trouve son compte. Et juste pour revenir donc sur le Festival de la Transition, on axe sur différents pôles. Donc ça sera donc grand rendez-vous le 24 mai à Neuville-sur-Saône. Donc le but de ce festival, c'est de changer de commune à chaque fois. C'est un festival qu'on fait de manière biennale. Donc on sera présent sur les quais de Saône, sur le parc d'Ombreval, autour de la place du 8 mai devant l'hôtel de ville. Et on va voir différents pôles. Un pôle sur l'eau, on aura même la chance d'avoir la péniche du Val de Rhône qui viendra nous proposer des écotourismes autour de la Saône, donc des conférences aussi autour de la Saône. Un pôle sur le zéro déchet avec une grande gratiféria qu'on est en train de réaliser. Branche alimentation, enfin le pôle alimentation, un pôle aussi autour de la branche junior. C'est une nouvelle branche qu'on a lancée, ça aussi. C'est vrai que c'est la toute dernière, du mois de novembre. Branche junior.
Junior.
Parce que là, l'idée, c'était aussi de sensibiliser aussi les enfants. Et donc là, cette branche, on a contacté différentes écoles. Et donc, on a notre référente qui travaille pour faire du lien. Et on a un grand questionnaire aussi qui est lancé, là, qu'on a lancé en ce début d'année, pour voir dans notre Val de Saône, qu'est-ce qui pourrait faire sens d'apporter comme animation auprès des écoles. Et donc on va bientôt avoir le résultat de cette grande consultation qu'on est en train de lancer.
Et nous, on sera présents également, comme la toute première fois, avec grand plaisir pour la partie entrepreneuriat. Je vais rappeler le site internet où vous retrouverez toutes les informations. Alors, c'est coopérative de la transition, tout attaché, .org. Et vous avez également un formulaire de contact que vous pourrez utiliser pour vous engager si vous avez envie ou pour prendre des informations.
Sur le site internet, engagez-vous, qui disait.
Engagez-vous, c'est ça. Alors, si on revient un petit peu sur ton parcours, tout ce qui t'anime, on sent que tu as un engagement effectivement pour cet écosystème local. En quoi ça fait sens pour toi ?
Alors, la quête de sens, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et le sens aussi, c'est vraiment le lien social. C'est aussi ça qui est important. Parce qu'on a trop souvent dit, dormez tranquille, braves gens, on s'occupe de tout, restez derrière vos écrans, pas de problème, voilà. Et de plus en plus, on l'assiste, et malheureusement, on continue encore un peu à l'assister, c'est le désengagement, en fait, des citoyens dans la vie concrète de leur territoire. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce qui fait vraiment sens aussi, c'est qu'on montre la participation citoyenne, co-construire ensemble. Et je vois, à mon sens, les plus beaux projets qui peuvent émerger, c'est la co-construction. Chacun d'entre nous, que ce soit élu, que ce soit citoyen, on ne tient pas l'alpha et l'oméga, mais de s'écouter. Voilà, de s'écouter, de communiquer, de parler, même si des fois on n'a pas les mêmes idées ou là-dessus, mais on progresse ensemble, on progresse en fait, et on se nourrit. Et c'est ça qui est important, de se nourrir les uns les autres.
Et en quoi le fait que ce soit local ?
Ah ben local, oui, parce que l'engagement local, c'est important, c'est que sur notre territoire, on voit bien qu'on a... Moi, j'ai beaucoup cru au niveau national qu'il peut y avoir des choses qui puissent bouger autour de la transition écologique. J'ai eu beaucoup de désamour, sur le côté politique, j'ai cru à certaines choses. Et je me dis, en fait, notre planche de salut, c'est nous, citoyens, de reprendre aussi un peu le pouvoir et de se dire qu'on peut faire quelque chose. Et si on, et le prisme là où on peut le faire, c'est déjà au niveau local. Voilà. Donc au niveau local, on peut concrètement agir. Voilà.
Oui, je crois que le fait de connaître les gens et d'être dans le rapport humain, ça crée du lien, en fait. Et si on construit à partir de ce lien, on fait des belles choses.
Ah ben on le voit. Et puis, c'est tellement... Ça fait tellement chaud au cœur quand on voit des personnes qui, du coup, s'engagent dans une action et qui se révèlent. Et moi, j'ai des parcours de personnes qui, au début, étaient très timorées et là-dessus, et qui, en fait, qui disaient « je ne sais pas faire grand-chose ». Et en fait, petit à petit, croire en sa capacité et disaient « non, mais moi, je ne pourrais jamais être référent de telle branche ». Et puis maintenant, l'élève dépasse le maître de certains. Donc, c'est ça qui est chouette, et de se dire... Et ça, c'est ça aussi qui est beau aussi à voir, c'est que les gens, même si au début ils ont des réticences, ils se disent mais le fait d'être réunis ensemble dans la bienveillance, dans l'écoute, et puis en fait on est une asso où il n'y a pas de salariés, on est tous des bénévoles, quoi. Donc voilà, donc du coup c'est ça qui est important de lancer.
Oui, c'est en faisant et en étant soutenu aussi, on s'outille. Et que ça fait du bien, en fait, à soi-même.
Complètement.
Au-delà de s'investir, en fait. On le voit, nous, à Sonne Essence, et c'est un peu ma question d'après, de notre lien, parce qu'en fait, on est nés un peu en même temps.
Tout à fait.
Que nous, voilà. dans notre grande recherche-action, on avait cette envie de mobilisation citoyenne. Et c'est Saint-Germain en transition, l'association toute locale, qui avait pris en main cette branche-là chez nous. Très vite, c'est devenu évident qu'avec votre existence, et puis en réfléchissant en termes de bassin de vie, en fait, c'était plutôt la coopérative qui faisait sens sur la mobilisation citoyenne. Du coup, moi, je vois du lien entre nous depuis le départ. Mais toi, qu'est-ce que tu peux dire de ça?
Avec Sonne Essence, on a été en parallèle, en fait. On est né un peu à peu près en même temps. On a eu des rencontres aussi qui nous ont permis aussi de nous nourrir, de savoir l'un et l'autre les domaines de prérogatives aussi. Oui. Et donc ça, c'était important. Et nous aussi, on avait besoin aussi d'un incubateur aussi, plus qu'un incubateur, en fait, quelque part aussi, parce qu'il y avait des gens qui ont envie de s'engager. Et c'est la branche naturelle aussi. Aussi, du coup, avec la coopérative, des liens, des parallèles. Et on a fait des actions ensemble. Vous avez été présent notamment au Festival de la Transition, où vous avez fait animer donc, la conférence sur les bifurqueurs. Ça, on nous en parle aussi souvent. Ça a donné des petites graines aussi à certaines personnes en disant, le montrer, le témoignage de personnes qui, concrètement, à un moment aussi de leur vie, ont fait cette bascule dans le monde de la transition. Vous le vivez concrètement aussi là-dessus. Et ça, c'est aussi l'idée aussi qu'on a envie d'imprégner aussi avec la coopérative. On a fait un très très beau, une très belle soirée qui était l'atelier des avis citoyennes, ça. Donc, oui. Cette très belle collaboration où l'idée c'était de recueillir en fait les envies des citoyens de ce territoire, donc du Val-de-Saône, de voir qu'est-ce qu'ils avaient envie donc de naître sur le territoire, et notamment il en est ressorti un tiers-lieu. Donc voilà, on y travaille aussi dans notre branche économie régénérative sur ce projet.
Oui, je crois que vous embarquez les gens à agir en leur donnant des sujets et des moyens sur plutôt du bénévolat, l'investissement citoyen. Et nous, on est plutôt sur la partie pro, finalement. Mmh. Comment on se met en action sur cette partie professionnelle. Et dans ton parcours, tu racontais que toi, tu as commencé par bifurquer au niveau professionnel pour te mettre dans un métier finalement qui était transverse entre ton engagement à la terre, au territoire, à tes racines, quelque part, et tes études de commerce, ton goût du lien et de l'autre côté, l'engagement citoyen.
Complètement.
Comment tu te vois dans 5 ans ?
Dans 5 ans. Oula, bah j'ai envie de te dire carpe diem déjà, hein, vivant le temps présent. Donc voilà, donc moi la vie a tellement été faite de surprises là-dessus, bah je me laisse cueillir, voilà, dans la vie et de déjà les actions et de les continuer concrètement comme ça et on verra ce que l'avenir nous présage.
Tu te laisses cueillir, c'est beau.
Courant porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. Merci Fabrice pour tout ça. C'est maintenant le temps de la rubrique de fond et c'est Ludovic qui reprend la parole.
Et oui, après, avec ce fourmillement, ce foisonnement d'énergie investie, de transition, on avait eu envie de partager quel était ce fond de ces mouvements citoyens, puisque la coopérative Val-de-Saône Mont-d'Or n'est pas un élément isolé et depuis des années, même on peut plus précisément dater de 2 décennies, ce type d'initiative fourmille en France, mais un peu plus de par le monde. Et le mouvement le plus significatif et qui encore aujourd'hui a des milliers d'implémentation dans le monde est né par un enseignant en permaculture en 2006 en Grande-Bretagne. Il s'appelle Rob Hopkins et il a lancé le mouvement des transitions, des villes en transition ou des villes et territoires en transition, du coup en 2006. Il avait d'abord effectivement travaillé sur un modèle à l'échelle d'un village ou d'une ville dans la ville de Kinsale en Irlande un an auparavant et à Totnes qui fait partie des villes de pèlerinage pour tout transitionneur de France, d'Europe, même dans le monde. À Totnes, il y a eu effectivement cette nouvelle dynamique. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 initiatives de transition à travers le monde dans 50 pays, dont plusieurs dizaines en France, qui sont aussi réunies dans un réseau international.
150.
Voilà.
Et
à peu près, voilà. Justement, il y a tout un cycle de vie dans ces initiatives. Mais peut-être en parler un peu plus de ce qui se passe, c'est l'idée d'un mouvement de dynamique transversale, on va dire, qui parle d'alimentation, d'énergie, de biodiversité. À l'époque, en 2006, le premier moteur, on va dire, était la conscientisation des enjeux énergétiques et du pic de prédiction de production du pétrole et aussi de plus en plus évidemment les enjeux climatiques qui sont souvent ce qui fait réveiller les personnes en disant et réveiller les consciences. Je fais le lien du cas de conscience du jeune Fabrice. Voilà, il y a ces déclencheurs-là qui invitent du coup les citoyens à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. Et nous s'ensuit effectivement des enjeux de comprendre les différents problématiques et solutions qui vont avec pour se loger, se nourrir, éduquer, etc. Et donc, par exemple, à Totnes, en Angleterre et à travers le monde, plein d'actions. Je pense par exemple aux monnaies locales et complémentaires qui permettent de davantage nourrir l'économie locale et donc moins de transport et à se rentrer dans l'économie réelle. Les incroyables comestibles qui sont assez connus et qui sont autour de l'alimentation ou alors les jardins partagés. Énormément d'actions positives qui prennent, selon le territoire, selon les personnes, des couleurs différentes, des actions différentes. Ce mouvement, à l'image de son fondateur, il est éminemment pragmatique, éminemment positif. C'est un mouvement qui prend le contre-pied des mouvements militants, qui est complémentaire, pour dire non, mais l'heure est à créer, à inclure, pour agir. Et c'est dans l'action, effectivement, qu'il va y avoir de la joie et de l'espoir. Et donc, il y a un principe d'action très, très inclusif. Une utilisation des outils d'éducation populaire de manière à pouvoir faire en sorte que chacune, chacun, quel que soit son âge, son niveau, enfin sa catégorie sociale, puisse s'investir et coopérer pour créer un compost, pour s'investir dans la monnaie citoyenne, etc. Et donc, dans les dynamiques qui sont proposées, donc Hopkins avait écrit un livre, un manuel de transition. Il y a eu deux grands documentaires qui étaient aussi utilisés comme lancement des initiatives, souvent en France et puis ailleurs. Et donc plein de dynamiques qui sont réellement qui permettent à chacune et chacun d'agir. J'ai moi-même été dans le lancement en 2011, à l'époque, ça fait presque 15 ans, de Lyon en transition et de Villeurbanne en transition. Il y a eu un forum ouvert qui est aussi une super dynamique très ouverte et très participative qui a lancé ce mouvement-là.
Je crois qu'on reviendra sur les outils de l'éducation populaire, c'est très très riche, et de faire le parallèle avec ce qui se passe en entreprise et qu'on connaît plus. Donc ville en transition.
Absolument.
Villeurbanne et Lyon en transition.
Voilà. Et un peu plus tard, Saint-Germain en transition. Voilà. Et donc ça, c'est un des mouvements, et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de dynamiques en France. Et aussi beaucoup de dynamiques qui ont composté, on en parlera un peu plus tard. Donc toutes ces dynamiques n'ont pas forcément perduré sur la durée.
Mais on fait des petits.
Et on fait des petits. Pour continuer le panel de l'histoire, effectivement, de ces mouvements citoyens plutôt dans dynamique écologique et positive, il est important de citer les Colibris, qui, depuis 2007, fondé par Pierre Rabhi, ce philosophe, écrivain et fondateur de cette ce mouvement-là, qui s'appelle Colibri, qui œuvre pour un changement de société et qui prône la sobriété heureuse, l'autosuffisance alimentaire par la permaculture, la gestion collective de l'énergie, une économie plus juste. Le mouvement a lancé vraiment beaucoup de projets en France, les pratiques concrètes et simples. Il y a du coup en France, encore aujourd'hui, des dizaines de groupes de colibris qui se reconnaissent avec la pensée de Pierre Rabhi et cette vision positive. Et on peut citer aussi également Alternativa, voilà, qui a été initié à Bayonne en 2013, où voilà, au lancement, il y a eu 12 000 personnes qui se sont trouvées au centre-ville pour le premier village des alternatives. Voilà, et c'est les alternatives au changement climatique. Voilà. Et Alternatiba, ils sont connus parce qu'ils font régulièrement des trajets en France avec un vélo à trois places. Voilà, il y a plein de belles dynamiques avec Alternatiba sur des villages des alternatives qui ont lieu voilà, à plusieurs endroits et qui rassemblent beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est trois illustrations de mouvements qui ont une affiliation finalement et qu'on peut croiser, je pense, en France, à plein d'endroits, et probablement que ça va continuer, qu'il y aura peut-être des nouvelles manières de nommer ça, mais finalement ça revient un petit peu au même, je veux dire. Il y a vraiment cette idée d'inclusivité, de pragmatisme et d'action positive.
Et je crois qu'on peut retrouver ces alternatives sur une carte.
Et oui, absolument. Il y a plus de 10 structures, dont Alternatiba et donc Colibri, qui ont, il y a quelques années, coporté ce beau projet d'un portail d'accès unique. Un portail voilà, pour aller voir les projets de transition écologique et sociale. Donc voilà, le site s'appelle juste Transiscope, ce portail web. Vous pourrez voir le lien dans les commentaires de cette émission. Et voilà, par exemple, en centrant la carte sur Villefranche, sur Saône, on recense 150 alternatives dans un rayon de 20 km. Des associations de solidarité, des AMAP, donc Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, hein, les fameux paniers de fruits et légumes, des Ripper Cafés, voilà, plein d'initiatives, et voilà, ça permet vraiment de pouvoir se connecter concrètement à ce qui se passe autour de soi.
Et on a aussi, en lien aussi avec la coopérative, fait émerger une carte très locale, Val-de-Saône, qui demande à s'enrichir et qui sera certainement à nouveau présente.
La fameuse carte d'Ophélie Manot.
Oui, c'est ça, la carte d'Ophélie.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, on va mettre une place de choix aussi à côté de vous, hein, parce que vous serez présents, son essence.
Bien sûr.
Nous serons très présents, tout à fait. Et voilà, donc sur notre Val-de-Saône, il y a effectivement, alors plutôt sur la partie... Enfin, avec beaucoup d'actions sur la partie métropolitaine, mais qui n'est pas exclusive, hein, on l'a entendu. Voilà, cette coopérative qui, coopérative Val-de-Saône, donc cette association qui fédère toutes ces actions dont on a parlé, mais il y a également, effectivement, alors il y a eu Saint-Germain en transition, qui est aujourd'hui plutôt en jachère, et il y a également Rochetaillé en transition, là, sur Rochetaillé-sur-Saône.
Très actif aussi au sein de la coopérative. Ouais.
Et je crois que... on peut dire que de ces trois grandes dynamiques que sont le mouvement de la transition de Rob Hopkins, les Colibris et Alternatiba, il y a tout le mouvement aussi des oasis, et voire même des archipels, qui a émergé.
Tout à fait. Au niveau national, effectivement, les oasis... Alors, il y a une structure nationale qui s'appelle la coopérative Oasis, là, qui vient soutenir et financer effectivement ces écolieux, parce que les oasis, alors ça vient aussi de la pensée de Pierre Rabhi, voilà, sont des habitats participatifs dans lesquels il y a souvent des activités collectives, voilà, donc il y a également pas mal d'initiatives aussi dans le coin, et il y a une carte qui s'appelle la carte des oasis à trouver et qui sera aussi sur les références. Porteur. Et toute cette belle dynamique nous invite aussi à prendre du recul sur leur capacité à transformer. Les mouvements citoyens fédèrent, parfois arrivent à faire des projets qui perdurent dans le temps, parfois concourt à prendre les municipalités. Et pour autant, il y a un vrai, on va dire, cycle de vie de ces initiatives où on constate un réel enthousiasme au début, où des personnes qui étaient loin des sujets viennent prêter main forte, viennent aussi se sensibiliser, viennent se rompre aux enjeux du collectif, du décider ensemble, des solutions, effectivement, avec tous les changements, petits et grands, qu'ils suscitent. Il y a souvent une forme de mobilisation, et puis on constate souvent que ça retombe sur beaucoup de dynamiques. Pour autant, on pourrait dire que du coup ça a été un échec, si ça perdure pas. Au contraire, moi je dirais qu'il est vraiment intéressant de voir les graines de sensibilisation individuelle et collective que cela sème, que des initiatives, parfois économiques, parfois associatives, perdurent sous d'autres noms. Cela aussi vient faire basculer des trajectoires personnelles et professionnelles. Ça diffuse aussi une culture du faire ensemble. Et souvent dans ces réunions, dans ces contextes, les citoyennes et les citoyens viennent comprendre qu'il y a d'autres manières, et voir et expérimenter qu'il y a d'autres manières de faire ensemble. Voilà.
Oui, ça crée des engagements sous une autre forme, effectivement. Que ce que tu parlais de prendre des municipalités, ça veut dire qu'il y a de l'engagement à s'engager, à postuler, en fait, à candidater en politique. Ouais.
On pourrait voir qu'il y a effectivement, au vu des actualités, un faible poids du citoyen par rapport au monde politique, économique, alors sous-tendu par le financier. Voilà. Et on peut se dire, on pèse pas grand-chose par rapport aux multinationales, par rapport à ces enjeux généraux. Pour autant, au niveau local, on peut voir qu'il y a une vraie... Si on pense à toutes ces grandes villes, Lyon, Annecy, Strasbourg, Tours, qui ont été remportés effectivement par des listes écologiques. Et puis voilà, Paris, il se passe aussi de belles choses. On peut, enfin, en tout cas moi, j'ai la naïveté d'y voir un signe d'air très positif que au niveau local, il y a des choses qui peuvent se faire et qui se transforment de plus en plus.
Oui, donc Ludovic, tu viens de parler de ce mouvement en fait de cycle de vie des initiatives. Enthousiasme, mobilisation, puis ça retombe, ça redonne des graines, etc. Y a un mouvement qui est repris en sociologie, également dans les cycles de vie des produits, des actes d'achat. C'est Everett Rogers, qui est sociologue sur l'innovation, qui explique comment se diffuse une innovation avec les pionniers, puis les premiers adoptants, avant d'arriver à une majorité précoce, puis qui est rattrapée par une majorité tardive. Et après, c'est les réfractaires qui viennent enfin combler le manque, ou en tout cas les 100% d'adoption.
Et ce sociologue de l'innovation, souvent il est cité dans le domaine des transitions pour voir, parce que le changement, par exemple sur les enjeux de mobilité, d'alimentation, etc., c'est du coup autant d'innovations qui arrivent et qui se diffusent peu à peu dans notre société. Je pense c'est un peu technophile, mais les voitures électriques, il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler, ou le compost, de manière plus simple, ou aujourd'hui de plus en plus de municipalités, les offres, et voilà. Donc voir que c'est au niveau des interfaces entre les différents cercles de personnes que ça se joue, et que la majorité ne pourra pas tout de suite entendre les pionniers. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes cercles, c'est pas les mêmes manières de penser. Et donc, il y a un vrai enjeu à soigner les relations entre les différents cercles relationnels, entre les différentes catégories sociales ou géographiques, pour que les innovations et donc le changement se diffusent.
Oui, c'est intéressant de se pencher sur les chiffres. Alors, on vous mettra la référence d'un article où il y a un joli schéma qui met en rapport justement ces précoces, majorité précoce et tardive également, etc., avec les différentes parts de marché. Donc les innovateurs, c'est 2,5%, les adopteurs précoces, c'est 13%. Et on voit que petit à petit, on arrive à un endroit de bascule. Alors souvent, quand on parle dans les assemblées générales, c'est le bon exemple, on parle de minorité de blocage quand on arrive vers les 35%. Cette minorité de blocage qui permet d'influencer et d'embarquer ou de faire basculer un vote, en fait. Et on parle également de masse critique, cette masse critique de 30-35% qui permet d'embarquer, qui devient culturelle et d'embarquer le reste de la population. Justement, comme tu le disais, à la frontière, en fait. Voilà. Vous retrouverez tous les liens des propos qu'on a tenus, que ce soit les liens de Fabrice, la coopérative, le festival, les différentes dynamiques de transition sur l'émission. Aujourd'hui, on a entendu donc Fabrice Volpré, membre cofondateur de la coopérative de la transition Val-de-Saône-Mont-d'Or. On vous rappelle qu'il y a le festival de cette coopérative, donc Agir en Val-de-Saône-Mont-d'Or.
Le 24 mai à Neuville-sur-Saône.
Exactement, ça va être un super événement sur les quais de Saône, le parc alentour, il y aura même une péniche.
Et on vous attend nombreuses et nombreuses.
Et nous pouvons aussi vous retrouver dans des apéros, je crois.
Et oui, on a notre fameux rendez-vous le troisième vendredi de chaque mois, qu'on appelle donc l'apérocop. Voilà, donc l'un des derniers apérocop, nous avions fait cela chez nos amis de la ferme du Courtil. Et donc, généralement, on fait ça aussi sur Neuville. Mais vous avez toutes les informations sur notre site internet pour vous dire à quel endroit on peut nous retrouver chaque mois.
Donc le site, c'est coopérativedelatransition.org. Il y a un formulaire de contact et sinon, si vous voulez envoyer un mail directement, c'est contact@coopérativedelatransition.org. Vous pouvez également retrouver les infos par la newsletter mensuelle et vous avez une page Facebook et une page LinkedIn. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci beaucoup Fabrice.
Merci à vous deux, c'était un vrai plaisir.
À tout bientôt. Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr. SAONE2SENCE.